Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fréchon-Toussaint, Alexandre Canuella.
Bonjour à toutes et à tous. C'est peut-être un entretien historique que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Celui où un écrivain annonce se retirer de la vie littéraire. Et cet écrivain, c'est Don Winslow. Auteur américain à succès, il a publié une vingtaine de romans noirs, traduits dans le monde entier, parmi lesquels La griffe du chien, Cartel ou encore La frontière. Il a aussi été adapté au cinéma par Oliver Stone, entre autres, et couronné par de nombreux prix. Pourquoi donc, à 70 ans, Don Winslow a-t-il décidé d'arrêter de publier? C'est évidemment une question que je lui poserai et qui n'est pas sans rapport avec la politique et plus précisément les prochaines élections présidentielles. En attendant, je vous propose de parler avec lui de son nouveau et ultime roman, « La cité sous les cendres », traduit en français par Jean Hesch aux éditions HarperCollins, un magnifique chant du cygne, le troisième volume de sa trilogie consacrée à un personnage très contemporain mais inspiré de la mythologie grecque. Rencontre donc avec Don Winslow pour la première et toute dernière fois. Bonjour Don Winslow, je suis très heureuse de vous accueillir à l'occasion de la publication de La cité sous les cendres, traduit en français par Jean Hesch aux éditions HarperCollins, dernier volet d'une trilogie romanesque très inspirée par la tragédie grecque et plus particulièrement de l'histoire de Énée, héros légendaire de la guerre de Troie qui a dû fuir son pays avec son fils et son père, comme ici votre personnage principal, qui lui s'appelle Danny Ryan. On l'a découvert à Rhode Island, on l'a suivi à Hollywood et le voici à Las Vegas. Est-ce que vous pouvez nous présenter Danny Ryan, nous dire d'où il vient, quelle est son histoire et ce qu'il incarne à vos yeux?
Sure. Danny represents Aeneas. Danny
représente Énée. J'ai voulu tenter d'écrire un polar moderne qui se base sur cette histoire de la tragédie grecque. Et quand on le rencontre, il est pêcheur, il est docker, il est un petit peu impliqué dans la mafia irlandaise et il sait que c'est d'ores et déjà une guerre qui est perdue d'avance.
Danny Ryan est donc de Providence, dans l'état de Rhode Island, au nord-est de New York. Est-ce que c'est une ville qui vous est familière, Don Winslow?
Oui, c'est là que j'ai grandi. Je connais très bien ces lieux et de nombreux lieux dans le livre se situent au sud de la ville, le long du rivage, puisqu'il est pêcheur et docker. Et c'est là que la mafia se retrouve pendant les vacances sur cette plage qui m'a vu grandir. Oui, donc j'ai une relation très intime avec ces lieux.
Alors au début, l'action se déroule dans les années 80. C'est la guerre des gangs entre la mafia irlandaise et la mafia italienne. Est-ce que vous avez des origines avec l'un de ces deux pays?
Both. I'm not Italian, I'm part Irish.
Les deux. Je ne suis pas italien, mais une partie de mon héritage est irlandais, quoique j'ai grandi dans un quartier italien. Et on était très proches les uns des autres, on était très liés.
Ça ne m'étonne pas parce que ici, la question de la religion n'est pas anodine. Il y a le poids du catholicisme très important, le péché, la question du pardon. Est-ce que vous-même, vous êtes croyant, Don Winslow?
No. Used to be. You know, was certainly
non.
Raised Catholic.
Avant, oui, j'ai été élevée dans la foi catholique, cette foi irlandaise très sévère, mais j'ai quitté les lieux très tôt, j'avais 13 ans.
Having said that, though, I think
ceci étant dit, on peut quitter cette éducation et cette foi, mais elle ne vous quitte jamais réellement.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 13 ans?
Grew up.
J'ai grandi.
You know, listen, I think that
quand je repense à ce moment-là et puis plus tard, en fait, ce que j'éprouve, c'est du ressentiment envers cette église catholique très stricte qui nous inculquait la peur des mythes, la peur d'avoir d'être frappé, la peur d'être sans cesse menacé. Et je n'ai appris que plus tard que ma mère avait été excommuniée parce qu'elle avait pris la pilule. Elle nous l'a dit vraiment, vraiment plus tard. À cette époque-là, une nouvelle grossesse aurait pu se révéler fatale et mortelle pour ma mère, donc elle a pris la pilule et l'église l'a mise au banc de la communauté. Et ce n'est qu'à l'âge de 84 ans qu'elle est retournée dans une église catholique pour la première fois depuis probablement 6 décennies et qu'elle a exigé des excuses.
Ça, c'est un excellent motif de roman, Dan Winslow.
Not for me.
Pas pour moi, non.
Alors, revenons à ce Danny Ryan qui, comme vous le disiez, ne se destinait pas à entrer dans cet univers de la mafia. Ce sont les circonstances qui l'ont mené là. Un peu comme Michael Corleone dans Le Parrain, qui voulait sortir de la famille et qui finalement se retrouve l'héritier. Bref, est-ce que vous nous dites entre les lignes d'un Winslow que parfois il suffit d'un faux pas pour que tout déraille et qu'on passe finalement sa vie à essayer de réparer le mal qu'on a fait ?
Absolument. Vous savez, je me suis basée sur la grande littérature classique, l'Odyssée, l'Énéide, l'Iliade, et ce sont toujours des récits qui mettent les êtres humains en lutte contre leur destin. Et c'est le cas de ce personnage qui est totalement prédéterminé par les circonstances et qui ne pourra pas échapper à son passé. Et c'est aussi tout ce qui est à l'œuvre dans la littérature policière et qui m'intéresse, ce sont ces moments de bascule, ces moments où notre loyauté nous force à nous interroger, est-ce que je vais pencher en faveur de ma famille biologique ou de ma famille adoptive, à savoir la mafia? Est-ce que je vais rester loyal envers ma famille ou envers mes amis? Et ce sont autant de lignes, une fois qu'on les a franchies, on ne peut plus revenir en arrière.
D'où la question de la rédemption qui est très importante, mais dont nous parlerons un peu plus tard, si vous voulez bien, Dan Winslow. Là, je voudrais revenir vraiment à Danny Ryan. Rappelons-le, ce crime, cette violence dont lui-même a dû faire usage fait aussi partie de son histoire. Ce n'est pas un ange. Mais il réussit à fuir et après Hollywood, on le retrouve donc dans ce troisième volume à Las Vegas en 1997. Il est riche, il a tourné le dos à son passé criminel, il dirige plusieurs casinos et il est sur le point d'en acheter un nouveau pour asseoir son empire. Nous sommes donc en 1997. Je pense que c'est une date qui n'est pas tout à fait anodine. Est-ce que c'est un moment clé à Las Vegas ?
Oui, je voulais écrire sur cette ère, ce moment historique, parce que c'est un moment de transition. Et les transitions sont toujours plus intéressantes que les moments de statu quo, parce que ça crée une dynamique. Et c'est un moment dans l'histoire de Las Vegas où le crime organisé touche à sa fin et où ce crime organisé laisse la place au big business, aux gros sous qui arrivent avec. Et ceci me permettait de faire un parallèle avec la vie de Danny qui, à ce moment-là, lui, laisse derrière lui son passé de gangster et essaye de s'acheter une légalité.
Effectivement, c'est la parfaite articulation entre le destin d'un homme et le destin de cette cité. Est-ce que vous êtes fasciné par Las Vegas, vous, Dan Winslow, ou pas?
You know, as a crime fiction writer, you should know a lot of crime history.
En tant qu'auteur de romans policiers, on se doit de connaître l'histoire de la criminalité, l'histoire du crime, et donc a fortiori celle de Las Vegas. Donc j'ai une certaine fascination pour l'époque que l'on vient d'évoquer, mais pas du tout pour la ville en elle-même. Je ne joue pas à des jeux d'argent, je ne bois pas, je ne suis pas un coureur de jupons, donc je n'ai rien de particulier à faire à Las Vegas, si ce n'est transpirer à grosses gouttes.
Dans ce lieu, qui pour certains est un paradis, pour d'autres un enfer, Danny Ryan, lui, traite les gens décemment, équitablement et honnêtement, je vous cite Don Winslow. Est-ce que c'est possible d'avoir cette attitude quand on est un millionnaire à Las Vegas, vraiment?
I think so. Listen, I'd like to think that that attitude
is possible. Oui, je le crois. J'aime à penser que c'est un comportement que toute personne peut avoir envers autrui en tout lieu et à tout moment. Et d'ailleurs, ça devrait être ainsi que l'on traite les gens. Je suis persuadée qu'il est plus facile d'être gentil que d'être méchant. Pour ce qui est du personnage de Danny, il faut se souvenir qu'il vient de la classe ouvrière et que les valeurs de la classe ouvrière, il les porte avec lui, y compris dans son entreprise hôtelière et jusqu'à Las Vegas.
J'ai
exercé comme détective privé pendant 15 ans au sein de multiples cabinets juridiques et je pouvais savoir à l'avance, à l'accueil que m'avait donné la personne à la réception, ce qui allait se passer sur le reste, la suite du travail, et je ne me suis jamais trompée.
Et c'est vrai que c'est la grande question du roman noir que incarne aussi ce personnage et votre trilogie, Don Winslow. Comment garder son intégrité quand on est entouré de mafieux, de tueurs, de gens sans parole? Et on voit bien ici que Danny veut la paix, veut traiter avec ses adversaires de façon la plus noble possible. Il cherche sa rédemption. Pourquoi est-ce que vous êtes si sensible à cette question, Don Winslow? Vous avez eu besoin, vous aussi, d'une deuxième chance?
Yeah, I needed more than a second chance.
C'est plus qu'une deuxième chance dont j'ai eu besoin. Je ne sais pas si on aurait assez de la journée pour compter toutes les chances dont j'ai eu besoin.
I think it goes back to a question you asked earlier. You know, I think redemption, of course, is the.
Ça remonte à la question que vous m'avez posée un petit peu plus tôt. La rédemption est un précepte pivot dans le catholicisme, et c'est un précepte que l'on m'a asséné quand j'étais enfant. Et c'est également une question centrale de la littérature policière.
Danny, I think, is a decent guy.
Danny, c'est pas un mauvais bougre, c'est plutôt un gars qui, bien souvent, a pris des mauvaises décisions, a été forcé à les prendre, soit par la loyauté, soit parce qu'il voulait protéger sa famille. Mais j'aime à penser qu'à la fin de toute cette histoire, il trouve une forme de rédemption, effectivement.
Danny imagine un hôtel casino révolutionnaire qui s'appellerait Il Sogno, en italien. Le rêve en français. Quel est votre rêve, vous, Don Winslow?
I think I've lived it. You know, I've wanted to be a writer since I was a little kid.
Il me semble que je l'ai vécu, mon rêve. Tout petit, je voulais être romancier. Alors le monde a mis un certain temps avant d'accéder à mon ambition, mais il a fini par le faire. Et c'est incroyable pour moi d'arriver aujourd'hui où j'en suis et de me retourner sur mon histoire et de me dire « Waouh, j'ai vécu mon rêve. J'ai écrit les livres que je voulais écrire. Ils ont été plutôt bien reçus. J'ai une famille. Je ne pensais jamais avoir une famille. J'ai un mariage heureux et solide à une femme extraordinaire. J'ai un fils qui, pour une raison qui m'échappe, m'aime beaucoup. » Je suis vraiment un sacré vénard.
C'est le temps de la pause musicale. On va continuer de parler avec vous, Don Winslow, de ce livre et de ce que vous avez commencé d'anticiper, c'est-à-dire, entre guillemets, la fin de votre carrière. Est-ce qu'il y a un morceau de jazz, peut-être, que vous aimeriez écouter maintenant et partager avec nos auditrices et nos auditeurs?
So many, you know, so many. I listen to jazz all the time.
Il y a tant de titres que je pourrais vous donner, du jazz j'en écoute tout le temps. Je pense à un album de Sonny Stitt qui s'appelle Just in Case You Forgot How Bad He Was.
It's pretty good. Of course, Miles Davis.
Il y a les disques de Miles Davis, il y a Love Supreme de Coltrane. Je pourrais continuer.
Et un titre en particulier?
Sonny Stitt, Everything Happens to Me.
On l'écoute. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain américain Don Winslow, qui vient de publier La cité sous les cendres, traduit en français par Jean Hesch aux éditions Harper & Collins. Le troisième volume de cette série romanesque dont Danny Ryan est le personnage principal. On l'a dit, c'est un homme en exil, chassé de chez lui à cause de la violence, mais rattrapé par son passé à Las Vegas et en quête de rédemption. Bref, une tragédie grecque. Ce livre est aussi, dites-vous, Don Winslow, le dernier que vous publiez. Vous n'avez que 70 ans pourtant. Pourquoi cette décision d'arrêter d'écrire ?
Couple of things. One is the political situation in my country right now.
Deux choses. La première, c'est la situation politique dans mon pays en ce moment, qui me semble exiger une présence et une réaction, une réactivité plus immédiate et suivie. Et je veux être de ce combat. Et donc, ça nécessite que je concentre toute mon énergie sur la bataille. Le deuxième point, c'est que cette trilogie m'a demandé trois décennies pour en venir à bout. Alors, j'écrivais d'autres choses dans l'intervalle, mais je peux vous dire que c'est l'œuvre de ma vie, le travail de toute une vie. Et un jour, j'étais dans mon bureau, j'étais là à me tourner les pouces, et j'ai levé les yeux sur ma bibliothèque et je conserve un exemplaire de chacun des livres que j'ai publiés. Et donc, j'ai levé les yeux sur cette étagère qui contenait une vingtaine de livres et je me suis dit, tu sais quoi, tu t'en es pas mal sorti finalement. Et ça pourrait être pas mal de poser la plume maintenant.
Je m'arrête sur le premier point. En d'autres termes, vous nous dites que vous vous mobilisez pour les prochaines élections présidentielles américaines en novembre 2024. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Depuis longtemps, vous avez cette croisade contre Donald Trump. Pourquoi ?
Well, I think that Trump, who first of all is a traitor.
Pour commencer, je pense que Trump, qui au demeurant est un traître, représente un mouvement néo-fasciste. Et s'il accédait de nouveau au pouvoir, il me semble que ce pourrait être la fin de la démocratie aux États-Unis, d'où l'importance des événements.
Concrètement, vous agissez comment, Don Winslow ?
Do what I've been doing, which is to comment.
Je continue à faire ce que je fais depuis toutes ces dernières années, c'est-à-dire je poste des commentaires sur les réseaux sociaux dans une langue, dans un anglais qui est clair, net, précis, sans embâge. Je continue avec mon partenaire Shane Salerno à monter, diffuser des vidéos sur les 10 réseaux sociaux qui ont des millions et des millions de vues. Et plus on approche l'échéance de novembre, plus on se focalise sur des zones et des sujets en fonction de ce qui passe aux informations.
Donc, Don Winslow, la politique a pris le pas sur la littérature dans votre vie. Peut-être parce que les romans ne sont plus assez forts pour lutter contre le mensonge, la désinformation, en tout cas à court terme.
That's not the issue. The issue is temporal.
La question n'est pas là, c'est une question de temporalité. Je n'ai pas le temps d'écrire, de publier, de faire lire un livre qui va pouvoir influencer les résultats de l'élection américaine. Mon but n'est pas d'écrire l'oraison funèbre de la démocratie américaine.
Ça, je l'entends bien, Don Winslow. Mais après novembre 2024, après les élections, quand Donald Trump ne sera pas réélu, qu'est-ce que vous allez faire, Don Winslow ?
Don't know yet.
Je ne sais pas encore, et je vous dis ça, je ne fais pas le malin, j'en ai vraiment aucune idée. Attendons le 5 novembre, et on verra avec quelle tête le monde se réveille ce matin-là.
Peut-être que vous allez écrire juste pour vous, on verra. En tout cas, vos adieux à la fin de ce livre vous permettent de dire merci à beaucoup de gens, dont vos parents, pour commencer, parce qu'ils vous ont ouvert la porte à la littérature.
Yeah, my mother was a librarian, my dad was a sailor, a bibliophile.
Ma mère était bibliothécaire, mon père était marin dans l'armée et bibliophile. Quand il est sorti de la Deuxième Guerre mondiale à l'âge de 18 ans, après avoir combattu à Guadalcanal dans le Pacifique, il avait trois ambitions. La première, c'était de se laisser flotter sur l'eau. La deuxième, c'était de lire des livres. Et la troisième, c'était de visiter tous les zoos d'Europe. les savoir. En tout cas, ils étaient uniques, mes parents.
You know, we have this sort of romantic image of writing and the novelist as the this sort of lone
wolf. On a cette image très romantique du romancier qui est un loup solitaire, qui passe tout son temps tout seul, qui se fait tout seul, mais c'est très très éloigné de la réalité. Certes, je passe une grande partie de ma journée seule à inventer des histoires devant mon clavier. Alors que quantité de gens ont joué un rôle, ne serait-ce que quand j'allume la lumière le matin quand j'arrive dans mon bureau. Je dois déjà ça à des milliers de personnes que je ne rencontrerai jamais. Et on n'en parle pas assez souvent, mais on pourrait, les éditeurs, les correcteurs-relecteurs, les personnes dans la vente, dans le marketing, tous ces personnes-là jouent un rôle dans le livre. Les journalistes, tels que vous-même, les libraires, les lecteurs, lectrices.
Teachers.
Mais allons plus loin, les enseignants, les enseignantes. Sans elles et sans eux, personne ne lirait le livre. Et la personne qui est chargée de l'entretien de l'école. Sans la personne qui se charge de l'entretien, on n'a pas une école, on a un piège à microbes. Et quid des personnes qui gagnent très très peu d'argent en entretenant les routes qu'empruntent les livres pour aller jusqu'au libraire? Donc on a cette image de l'auteur comme le héros, solitaire, mais ce n'est pas du tout ça dans la réalité.
Oui, de la même façon qu'on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, il faut aussi beaucoup de monde pour qu'un livre aille de l'auteur au lecteur, et c'est à ça que vous rendez hommage. Don Winslow, de la même façon qu'il faut sans doute 1000 vies comme vous, vous avez eu pour nourrir les histoires de ces romans. Vous nous l'avez rappelé, vous avez été détective privé, vous avez été aussi guide safari au Kenya, metteur en scène de théâtre, gérant de cinéma, je crois. Il faut toute une vie aussi pour se mettre à écrire, sachant que vous avez commencé de publier assez tard finalement.
You know, I didn't start late. I only had some success.
Je n'ai pas commencé tard. J'ai commencé tôt. C'est le succès qui est venu tard. J'ai essuyé quantité d'échecs.
Listen, nobody stamps your passport.
Personne ne tamponne votre passeport en vous disant vous êtes écrivain, vous voulez être médecin, vous faites médecine, vous voulez être avocat, vous faites votre droit.
So I had to do a lot of things just to eat.
Et j'ai dû faire plein de boulot pour m'en sortir, des choses diverses et variées. Très enthousiasmante, parfois dangereux, mais c'était toujours sympa.
Alors c'est vrai que le succès n'est peut-être pas venu au début, qu'il y a eu quelques époques difficiles et qu'on oublie aujourd'hui, en effet, puisque vous êtes l'auteur de 25 best-sellers vendus dans le monde entier, traduits dans plus de 15 langues, adaptés au cinéma, comme je le rappelle. De fait, Don Winslow, quel conseil donneriez-vous à un jeune écrivain aujourd'hui?
Never give up.
Ne jamais baisser les bras, ne jamais lâcher l'affaire. Vous savez, c'est marrant parce que cet été, avec mon épouse, on a rencontré une femme qui nous a fait une remarque, un peu une pique en passant, et qui a dit à ma femme, en fait, tu l'as épousée pour son argent. Et en rentrant à la maison avec mon épouse, on a ri parce qu'on s'est souvenu quand on devait mettre nos possessions au Mont-de-Piété pour pouvoir s'acheter des spaghettis. Et je dis toujours aux jeunes auteurs qu'il ne faut jamais abandonner, jamais baisser les bras. On va vous claquer beaucoup de portes au nez, mais il suffit d'une réponse positive.
Qu'est-ce que vous allez regretter le plus dans cette vie d'écrivain, Don Winslow?
The work itself, the creation. You know, the
le travail en lui-même va me manquer, cette création, cette créativité, les longues heures passées à façonner des phrases, à façonner des paragraphes. Et puis ce moment, ces espèces de jaillissements, quand le personnage part dans une direction totalement inattendue et ouvre de nouvelles portes, et je me retrouve 3 heures plus tard à avoir écrit 5 ou 6 pages et à ne pas savoir où est passé le temps.
À la fin de ce roman, l'un des personnages rentre chez lui et ses cendres sont dispersées dans l'océan. C'est ce que vous souhaitez, vous aussi, Don Winslow?
Yeah, that's my request to my wife and son. You know,
c'est exactement la requête que j'ai faite auprès de mon épouse et de mon fils. J'aimerais que mes cendres soient dispersées précisément dans ces eaux, sur cette plage. Écoutez, la vie m'a souri. Si la mort veut bien me sourire aussi, j'espère bien mourir sur ma planche de surf dans ces eaux.
Le plus tard possible, évidemment. En attendant, Don Winslow, c'est donc la première fois que je vous rencontre. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la dernière fois que je vous interview pour l'un de vos romans? Vous êtes sûr de ça?
I am. I feel it in my heart.
J'en suis sûr, je le sens en mon fort intérieur. Je continuerai sans doute à écrire, mais pas à publier. J'écrirai pour moi, pour me faire plaisir.
Alors, merci beaucoup, Dan Winslow. So long. Et en attendant, je rappelle le titre de ce nouveau roman, La cité sous les cendres, traduit en français par Jean Hesch et qui est apparu aux éditions Harper & Collins. Et merci beaucoup à Fabienne Gondran qui, tout au long de cet entretien, a été votre voix française. Merci et goodbye.
Merci, goodbye, je vous en prie.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Alexandre Cayuela. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.